OK. C'est qu'on commence. On est rendu ce soir dans le mystère. C'est l'avant-dernier mystère dispensationnel, donc dans les dispensations. Puis c'est le mystère de la volonté de Dieu. C'est ça qu'on. Le mystère de sa volonté. On va lire dans Éphésiens, chapitre 1. On va commencer au verset 7. Puis on va voir ici le mot, comme on regarde à chaque fois, le mot mystère, parce qu'on dit que c'est les mystères de l'Ancien, du Nouveau Testament. Puis c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu connaître si ça ne nous était pas révélé, même si c'était en vue dans l'Ancien Testament, c'est révélé dans le Nouveau Testament. Puis le Seigneur nous l'a révélé pour montrer l'intimité de la relation qu'on a avec lui. Donc, ce n'est pas comme dans le monde, on dit c'est un mystère, on ne comprend pas, mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu connaître de nous-mêmes, mais quand le Seigneur nous le révèle, il nous le révèle pour qu'on puisse savoir dans la relation intime qu'on a avec lui. Fait qu'on va lire sans plus tarder dans Éphésiens au chapitre 1, on va commencer au verset 7. Il dit en lui, c'est en Jésus-Christ, c'est un terme qui revient tout le temps en Christ ou en lui dans le passage d'Éphésiens 1 parce qu'il nous parle des bénédictions spirituelles. C'est toujours en Christ, puis il ne faut jamais oublier que ces bénédictions-là, on ne les avait pas avant d'être en Christ. Quand on s'est placé en Christ par la foi, eh bien, ces bénédictions-là font partie ça vient avec le salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Donc, il dit, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère, notre mot ici qu'on cherche, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On s'arrêtait là pour la lecture de sa parole. Le Seigneur va bénir sa parole qu'on lit ensemble. Donc, on va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie encore une fois de tous ceux qui se sont réunis ce soir autour de ta parole afin de pouvoir grandir, connaître, Seigneur, les choses que tu nous as données. Puis on te remercie, Seigneur, que tu nous as dit ces choses d'avance, afin que lorsqu'elles vont arriver, Seigneur, on puisse savoir qu'on croit que qui tu es. Tu es vraiment celui qui peut donner toute la prophétie, nous faire connaître d'avance les choses qui vont arriver dans la suite et même nous faire comprendre les choses qui sont arrivées auparavant aussi. On te remercie, Seigneur, pour tout cela. Bénis-nous chacun dans ta parole ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Donc, il y a trois, on va regarder ce mystère-là en trois points parce que c'est le mystère de sa volonté. Donc, on va regarder quelle est cette volonté, premièrement. Ensuite, on va regarder les termes qui sont utilisés ici. On va faire un regard sur les termes qui sont utilisés dans la parole de Dieu par Paul, mais par l'Esprit de Dieu. Puis, après ça, on va regarder l'implication de cette volonté-là. Qu'est-ce que ça va amener, cette volonté-là? C'est quoi? De quelle façon ça se traduit pour l'éternité. Donc, premièrement, quelle est cette volonté-là? Le mot volonté qu'on trouve ici, c'est un mot qui veut dire un décret. Donc, quand il nous dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, c'est un décret, c'est un choix, une détermination, quelque chose que Dieu a concocté lui-même, c'est selon sa sagesse qu'il a fait cette volonté-là. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est son plan qu'il va accomplir. Il nous a révélé son plan, comment il va accomplir son plan, puis il nous le fait connaître d'avance. Donc, on n'est pas laissé à notre imagination ou quoi que ce soit, mais le Seigneur nous fait connaître d'avance cette volonté-là. Dans Jean 13, 19, le Seigneur Jésus a dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive. C'est ça, la parole de Dieu, c'est un livre prophétique. C'est vraiment le seul livre qui est prophétique puis qui est exact dans sa prophétie, même dans des temps éloignés. Donc, Dieu peut prédire d'avance, longtemps d'avance, sa volonté. Et c'est donc, il dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Quand on parle de je suis, c'est le nom de Dieu, là. I am, c'est le Dieu que Moïse a demandé quel est son nom, puis il a dit je suis. Je suis le Dieu qui est. Donc, le Seigneur Jésus, il nous montre que les choses qu'il a dit d'avance, il nous les a dit pour qu'on puisse, quand elles arrivent, c'est ça, c'est remarquable avec la prophétie. Quand on, des fois, on ne sait pas exactement comment une prophétie va s'accomplir, mais lorsqu'elle s'accomplit, on sait exactement comment elle est. Puis on la comprend parce elle nous a été dite d'avance. Donc, c'est son plan qui va s'accomplir. Ça, c'est le but de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est qu'on puisse savoir que seulement Dieu, puis la parole de Dieu, c'est un livre prophétique, mais exact dans sa prophétie. Il y a des gens qui ont fait des prophéties, puis des fois, si les gens voient que, on pense à Nostradamus, s'il arrive une chose, il dit, hey, il était vrai, regarde, c'est arrivé, qu'est-ce qu'il avait dit? Il peut avoir dit 100 choses qui n'ont pas arrivé. Mais ce n'est pas grave, il y en a une qui est arrivée. Tandis qu'avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On la met au défi, on dit, s'il y aurait une chose dans la parole de Dieu qui n'arriverait pas, on dit, regarde, c'est faux. Mais c'est pour voir comment l'homme est biaisé par rapport. Mais la Bible ne se trompe jamais. Il y a bien des fois qu'il y a des gens qui ont dit la Bible s'était trompée pour découvrir plus tard que la Bible ne s'était pas trompée. C'est eux qui s'étaient trompés. Parce que Dieu, quand Dieu fait une prophétie, elle s'accomplit exactement dans les détails infimes. Cette prophétie-là s'accomplit comme Dieu l'a dit. Donc, c'est le but de la prophétie de savoir que c'est seulement Dieu qui peut dire le futur avec une exactitude aussi précise, sans erreur. Puis même dans des temps lointains, quand on lit dans Daniel les choses que Daniel a écrites, ben, il y a encore des choses qui vont s'accomplir. C'est longtemps après, mais ça va s'accomplir exactement ce que Daniel a prédit, puis tous les prophètes ont prédit. Quand c'est arrivé exactement comme ça avait été dit. Puis les choses qui viennent plus tard aussi vont s'accomplir à la lettre. Donc, c'est la marque de commerce de la parole de Dieu. L'exactitude dans la prophétie. On pense comme au Coran ou d'autres livres religieux, ces livres-là ne peuvent pas donner la prophétie parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Parce que seulement Dieu peut donner l'exactitude dans la prophétie. Donc, quand on pense à l'épître aux Éphésiens, c'est là qu'on trouve notre mystère ce soir, le mystère de sa volonté. On le trouve dans l'épître aux Éphésiens. Puis, dans l'épître aux Éphésiens, c'est le summum de l'enseignement par rapport à sa volonté, qui mentionne ici, dans le chapitre 1, verset 9. C'est vraiment, on comprend cette volonté-là, ce décret-là que Dieu a décrété, on le comprend vraiment comme il faut dans l'épître aux Éphésiens. Puis qu'est-ce que c'est cette volonté-là? Ben, c'est la place que va occuper le Christ dans la volonté de Dieu. C'est ça, c'est vraiment par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, on voit que cette volonté-là de Dieu, c'est vraiment de placer Christ dans le plus élevé, dans la position la plus élevée dans toute la création de Dieu. C'est ça qui est arrivé, parce qu'on sait que quand Dieu a créé l'univers, quand il a créé la fête de la création, il a créé l'homme, puis il l'a mis comme chef de la création. L'homme dominait sur la création de Dieu, mais à cause du péché, l'homme s'est soumis à Satan qui a usurpé. Puis maintenant, c'est pour ça qu'on appelle Satan le prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle. Donc, Satan a une position qu'il a usurpée, mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est lui qui va prendre la première place. Dieu a décrété que le Seigneur Jésus-Christ va prendre la première place dans cette nouvelle création-là, rachetée par lui-même. Donc, c'est la position. La volonté de Dieu, c'est vraiment d'élever le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout, puis avec ceux qui appartiennent à Christ, de participer vraiment dans cette position-là que le Seigneur, Dieu le Père lui a donnée. Donc, dans le premier chapitre d'Éphésiens, ce qu'on voit, ben, c'est toutes les bénédictions spirituelles. Il y a des gens qui cherchent encore des bénédictions spirituelles. On les a toutes. Ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, et on a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, du moment qu'on s'est placé par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, on a reçu toutes les bénédictions, on les a. Tout ce qu'on a, c'est de les découvrir puis de s'en réjouir. Mais on n'en demande pas d'autres, on les a toutes. Le Seigneur nous a donné, il a ouvert tout son magasin pour nous donner tout en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous dit ça dans Éphésiens. Donc, dans le chapitre 1, on voit que toutes les bénédictions spirituelles sont en lui, puis sans lui, rien du tout. La différence se fait quand, par la foi, on entre dans ces bénédictions-là parce qu'elles sont en Christ. Donc, c'est ça l'importance, là. C'est quand on n'était pas en lui, on n'avait pas rien de cela. Puis, il faut comprendre ça. C'est pour bien comprendre le passage, il faut comprendre que c'est en lui. C'est comme une entité ou comme un cercle. Avant, on était dehors. Maintenant, on est en dedans. Fait que c'est ce cercle-là qui a toutes eu les bénédictions en Christ. Puis quand on vient par la foi en Jésus-Christ, on entre dans ces bénédictions-là. Donc en lui, c'est pour ça que dans le chapitre 1, on voit que l'expression en lui ou en Christ revient constamment pour nous montrer vraiment que c'est vraiment en lui qu'on a toutes ces choses-là. Puis sans lui, on n'a rien du tout. Mais dans les versets 20-21 du chapitre 1, on voit que lui était placé au-dessus de tout. Et versets 20 et 21, il nous dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voyez-vous la place qui a été donnée au Seigneur Jésus-Christ? Il est au-dessus de tout, pas seulement ici, mais dans le siècle à venir, puis dans la création de Dieu, lui, il a la première place. Il a été élevé parce qu'il s'est abaissé. Il s'est abaissé, puis Dieu l'a pris du tombeau, il l'a ressuscité, puis il l'a placé au-dessus de toute chose. Les versets 22-23 nous disent qu'il a été donné comme chef suprême à l'Église. Donc, au verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ça, c'est lui le mystère de sa volonté, qu'on comprend là, la place qui est donnée au Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout. Dans le chapitre 2, les versets 20 à 22, on voit qu'il est placé comme la pierre angulaire de l'habitation de Dieu. Donc, dans les chapitres 2, il parle de nous ici, mais peut-être on va commencer au verset 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Remarquez, c'est toujours en lui. Donc, lui, il est la pierre angulaire de l'habitation de Dieu. On parle dans l'Ancien Testament, il y avait le temple, il y avait aussi le tabernacle avant le temple, mais le Seigneur Jésus-Christ, ici, il édifiait une maison spirituelle, puis lui, il en est la tête. C'est lui qui est au-dessus. C'est en lui que l'édifice a été élevé. C'est lui le fondement de cet édifice-là. Donc, c'est la pierre angulaire. Christ est la pierre angulaire de l'habitation de Dieu en esprit. Puis c'est nous autres qui on est des pierres, qui ont été comme l'apôtre Pierre nous dit. Lui, il est une pierre vivante, puis nous, on s'est joints à lui pour former cet édifice-là. Même on dit que le Seigneur Jésus, il est la pierre de coin, donc le fondement, mais il est aussi la pierre qui termine l'édifice. Donc, c'est lui qui a la première place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on enlève la place au Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, c'est pour la remplacer. Comment on peut remplacer le Seigneur Jésus? Le Père lui a donné la première place. Il l'a mis comme chef suprême. Il faut pas oublier ça. Il faut toujours agir de façon à démontrer que le Seigneur Jésus est le chef suprême de l'Église. Dans le chapitre 3, au verset 8, on voit qu'il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Dans le chapitre 3, verset 8, Paul y parlait de lui. Peut-être on va regarder le verset 7. Il dit donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, c'est nous autres ça, Paul y a été donné pour annoncer aux païens quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Donc, il parle ici des richesses incompréhensibles de Christ. Paul, il était excité vraiment d'avoir eu cette grâce parce que lui, il persécutait le nom du Seigneur Jésus-Christ, il persécutait les disciples du Seigneur Jésus. Puis, il disait, moi qui étais un meurtrier, un blasphémateur, maintenant, dans la grâce, Dieu l'a racheté, il l'a pardonné, puis en plus, il en a fait un ministre, donc un serviteur pour proclamer aux païens ces richesses-là incompréhensibles de Christ. Donc, on voit comment la place est grande. Le Seigneur Jésus a des richesses qu'on ne peut même pas finir de comprendre. On va être dans ces richesses-là pour l'éternité. On est avec lui là-dedans. On est héritier, co-héritier avec Christ. Dans le chapitre 3, verset 17-19, on voit que Christ habite dans nos cœurs. On va le voir aussi parce que dans le mystère dévotionnel, Christ qui habite en nous. Mais regardez dans le verset 17, il dit, Paul parle ici, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Imaginez-vous, en Christ, on est rempli de toute la plénitude de Dieu. Et je disais dernièrement il parlait de quand le tabernacle a été construit, puis qui a été érigé par Moïse, puis on a fait la dédicace, les prêtres devaient sortir du tabernacle parce que quand la gloire de Dieu, la nuée est venue sur le tabernacle, il a fallu qu'ils sortent. Puis d'un côté, il y a une application pour nous autres au point de vue spirituel. Quand le Seigneur nous remplit de sa gloire, la plénitude de Dieu, bien, nous autres, on sort. Nous autres, on sort. Il faut qu'on meure à nous-mêmes puis qu'on laisse lui vivre en nous. La même chose avec le temple. Quand Salomon a construit le temple, puis quand ils ont fait la dédicace, la même chose est arrivée. Quand la gloire de Dieu a rempli le temple, les sacrificateurs ont dû sortir parce que Dieu remplissait, la gloire de Dieu remplissait. C'est ce que Paul il veut nous dire. Il réfère à cette plénitude de Dieu-là afin qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est quelque chose de penser que Dieu veut nous remplir comme ça. Puis, si Dieu nous remplit comme ça, qu'est-ce qui arrive? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui paraît, c'est plus nous autres. Parce que nous autres, on doit laisser la place à la gloire de Dieu qui vient nous remplir. Dans le chapitre 4, on voit au verset 12-13, connaître le Seigneur Jésus-Christ, ça nous amène au perfectionnement des saints. Regardez dans le chapitre 4, au verset 12 à 13. Il nous dit ici, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il parle ici de perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, comment on peut être perfectionné ensemble pour faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Mais c'est par la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, quand le Seigneur se fait connaître à nous, c'est comme ça qu'on vient, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on est perfectionné ensemble, on est ajusté ensemble pour qu'on puisse faire l'œuvre du Seigneur Jésus sur la terre. Donc, on voit dans le verset 15 à 16 du chapitre 4, toujours on est dans la volonté de Dieu, quand il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. On a dit, l'Épître aux Éphésiens, c'est le summum de l'enseignement sur la volonté, le mystère de sa volonté. Et dans les versets 15 à 16 du chapitre 4, il nous dit ici, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons en tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, on voit que étant le chef du corps, la tête du corps, la tête de l'Église, c'est dans lui qu'on croit. C'est dans la connaissance du Seigneur Jésus qu'on croit, puis on peut devenir comme un homme mature, ou en parlant du corps qui devient un corps mature pour servir le Seigneur Jésus. Dans le chapitre 5, verset 1 à 2, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, comment? À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc maintenant, il devient notre modèle à suivre. Le Seigneur Jésus, qu'on apprend à connaître, on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ben, quand on, c'est en lui qu'on va croître, qu'on va grandir, puis il devient notre modèle à suivre. Comment qu'on doit vivre, comme le Seigneur Jésus a vécu sur la terre. Comment, puis comment il est pour nous. Le Seigneur dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, il est vraiment, il est devenu, Dieu l'a donné comme notre modèle à suivre. Même si Paul, des fois, disait, soyez mes imitateurs, mais Paul le disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, il faisait la distinction. C'est pas quand Paul agissait de lui-même, mais Paul agissait, il avait pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. Puis en ayant pour modèle le Seigneur Jésus-Christ, ben, sa façon d'agir, on pouvait imiter Paul, parce que lui, il imitait le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important. Si on en revient, on parle du mystère de sa volonté. Donc, si on revient à ce mystère de sa volonté, c'est quoi? Ben, c'est de placer Christ dans sa position à cause de son œuvre, puis de réunir toutes choses en lui. C'est ça la volonté de Dieu, c'est de placer le Seigneur Jésus-Christ, l'élever en position, puis de réunir toutes choses en lui. Ceux qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ, on est réunis, on est, le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce n'est pas seulement de dire on est ensemble, mais on est ensemble dans le Christ. On est réunis en lui. Puis cet enseignement-là, okay, on dit dans Éphésiens, c'est le summum de l'enseignement sur sa volonté ici, mais on voit ailleurs ce mystère-là, on voit cette volonté-là de Dieu, l'endroit que le Seigneur a été donné. On le voit aussi dans les Philippiens au chapitre 2 et versets 9 à 11. Donc, dans Philippiens au chapitre 2 et versets 9 à 11, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous, encore une fois, on voit la volonté de Dieu ici. Il a placé le Seigneur Jésus-Christ. Il veut qu'un jour, tout genou va fléchir. Aujourd'hui, on peut parler du Seigneur Jésus, puis il y a des gens qui ils ne veulent rien savoir de ça, mais un jour, ils vont devoir fléchir le genou. Merci Seigneur que pour plusieurs d'entre nous qui sont sauvés, ceux qui sont sauvés, on a déjà fléchi le genou. On a reconnu qui était le Seigneur Jésus. On a reconnu la place que Dieu le Père lui a donnée comme chef suprême, comme au-dessus de toutes choses. Puis celui qui honore le Fils honore le Père aussi. Puis merci Seigneur qu'on a eu cette possibilité-là de reconnaître la place. Le Seigneur nous fait connaître le mystère de sa volonté, mais dans sa volonté, on reconnaît que le Christ a été élevé au-dessus de tout, puis nous, on se soumet de cœur. On a été brisé devant lui, on se soumet de cœur, on veut lui reconnaître sa place que Dieu lui a donnée. Dans Colossiens 1:20, il dit, il a voulu par lui, par le Seigneur Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Donc, ce n'est pas l'harmonie avec la terre puis les cieux, ce n'est pas l'harmonie. On sait que dans les lieux célestes, il y a les puissances des ténèbres, les dominations, les puissances célestes, mais du mal, les puissances du mal sont dans les lieux célestes. Il y a un conflit dans les lieux célestes aussi. C'est pour ça que quand on va dans les lieux célestes, on a les armes spirituelles pour combattre dans les lieux célestes. Mais un jour, le Seigneur va réconcilier les cieux, va réconcilier la terre, puis ça va être l'harmonie parfaite. C'est difficile à s'imaginer ça, qu'un jour, là, il n'y aura plus d'adversité, là. On ne sera plus à contre-courant. On va être vraiment dans l'harmonie tout autour de nous autres. Là, on voit qu'autour de nous autres, on ne reconnaît pas la place du Seigneur Jésus. Mais dans ce temps-là, tout va reconnaître la place du Seigneur Jésus parce qu'il va être manifesté ouvertement. Puis on va voir accepter cela. Donc, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est quoi qui a amené la rébellion? Tout ça, c'est le péché. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, comment il va réconcilier toutes choses? C'est en s'occupant du problème du péché. Les religions nous disent, ben, faut essayer de s'améliorer. Le Seigneur Jésus est allé, lui, à la source même du problème, c'est le péché. Puis il a pris notre péché en son corps sur le bois, il a fait face au jugement divin, puis en ayant fait face au jugement divin, il nous a libérés du jugement. Il l'a pris à notre place. comme Barabbas qui devait occuper la croix du milieu, Barabbas n'a pas pu occuper la croix du milieu parce que le Seigneur Jésus était là. C'est lui qui a pris sa place. Barabbas est allé libre. Comment est-ce qu'il a vécu sa vie? Je ne sais pas. La parole ne dit pas. Mais nous, c'est la même chose pour nous. C'est nous, c'était notre croix. C'était le jugement qui devait tomber sur nous, qui a tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que lui, il réconcilie tout comment? En réglant le problème. C'est la source du problème, c'est le péché. Maintenant, on va regarder un petit peu les termes. On a parlé de sa volonté, qui était comme, ça veut dire, le mot volonté ici, c'est un décret, on a dit tantôt. Mais il dit, on va retourner dans Éphésiens 1, verset 9, il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Puis ici, le bienveillant dessein, là, ça veut dire, c'est son délice, sa satisfaction, c'est son désir. C'est ça, c'est son plaisir qu'on peut dire. Là. Le bienveillant dessein, c'est selon son bon plaisir. C'est ce que Dieu veut. Puis ça nous fait connaître quelque chose de Dieu. C'est quoi que Dieu veut? Bien, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous autres. Puis quand les gens pensent à Dieu, ils pensent que Dieu il va détruire leur vie. S'ils se tournent vers Dieu va, ils pourront plus faire ci, ils pourront plus faire ça. Mais nous autres, on s'aperçoit qu'on a vraiment connu la vie en venant au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu vraiment nous donner tout. Vous avez tout pleinement en lui. Puis on manque de rien. Des gens qui disent, ouais, vous pouvez plus faire ci. Non, on veut plus faire ça. On veut plus faire ci, on veut plus faire ça. On a maintenant des désirs différents. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis on se réjouit des choses qu'on a en Jésus-Christ. Donc, le bienveillant dessein, c'est selon son délice. Ça, c'est ce qu'il veut, c'est ce qui va le réjouir. Puis dans Ésaïe 53, 11, il nous est dit, à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Voyez-vous, le Seigneur, il a souffert. Puis c'est une grande souffrance quand il est allé à la croix, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais à cause de ce travail-là, il va rassasier ses regards. Comment il va rassasier ses regards? C'est quand il va nous avoir avec lui, transformés, qu'il va nous introduire dans la maison du Père. Quand il va tout réconcilier les choses, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va être la chose la plus merveilleuse quand tout va être réconcilié avec son Créateur. Puis c'est le Seigneur Jésus qui accomplit cette œuvre-là. Donc, selon le bienveillant dessein. Puis après ça, il nous dit formé en lui-même. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est dans la pensée de Dieu que cette volonté-là est venue. C'est son désir. C'est pas nous autres qui on dit, ouais, mais Seigneur, ça serait une bonne idée hein, si tu nous envoyais ton fils mourir sur la croix pour nous autres, puis pour nous réconcilier avec toi, pour prendre notre péché, le jugement que notre. C'est pas nous autres qui pensons ça. Nous autres, on entre là-dedans. On découvre ces choses-là. Puis on se réjouit dans ces choses-là. Parce que, mais c'est le plaisir de Dieu. C'est son délice qu'il a fait ici. Là. Quand il dit former en lui-même, ça veut dire, le mot veut dire placer devant soi ou faire une exhibition à soi-même. Dieu il a placé ça. Tout ce plan-là, il l'a fait avant que le monde soit. En Jésus-Christ, il avait tout. Puis il l'a placé devant lui. C'est comme quelqu'un qui fait un travail, un peintre, qui fait une œuvre d'art, puis il la met devant lui, puis il l'observe, il la regarde. Puis il est satisfait. C'est ça que la volonté de Dieu, c'est ça. C'est que Dieu a tout décrété ça selon son bienveillant dessein. C'est son plaisir, c'est son délice. Puis là, il le met devant lui, puis il dit, c'est parfait. Comme quand il a fait la création, il a dit que tout était parfait, tout était beau. Tout était le péché à endommager, mais maintenant, il refait toute chose pour son délice. Ça, c'est ça. Mais dans Éphésiens 1, 10, ici, quand est-ce que ça va arriver, ça? C'est pour quand, ce plan-là? Comment il va finir? Là, il est en étant d'être fait, d'être accompli, mais un jour, la totalité va être accomplie. Mais quand? Quand il parle ici de l'exécution, il dit lorsque les temps, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, l'exécution, c'est lorsque les temps seraient accomplis. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit lorsque les temps seraient accomplis? Si ceux qui ont la Bible Scofield, il y en a qui disent que la Scofield n'est pas bonne, mais quand même, il y a des bonnes choses dans Scofield. Mais dans la marge de Scofield, ceux qui ont Scofield, il dit lorsque les temps, il dit lorsque, dans la marge, il y a une note, c'est lorsque la dispensation du temps serait arrivée à terme. Lorsque la dispensation du temps serait arrivée à terme. Quand on voit le mot dispensation, c'est un mot dont on parle d'une économie. Ben c'est ça le mot dans le grec, c'est oikonoma, oikonomia, c'est une économie. Puis le mot, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? C'est deux choses. Oikos, c'est une maison, puis nomia, ben c'est une loi. Donc c'est la loi d'une maison. C'est ça une économie, c'est la loi d'une maison, que c'est comme une économie, c'est ça que c'est. C'est une façon d'agir, c'est la loi de la maison. Quand on dit ça, c'est la loi de la maison. Ben, c'est ça que la dispensation, c'est la loi de la maison que Dieu a décrétée. Donc, c'est une dispensation. Puis, c'est un mot qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui n'aiment pas ce mot-là, dispensation, parce que c'est un enseignement qui avait été perdu les années sombres. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été perdus dans les années sombres parce qu'on avait mis la Bible de côté, parce qu'on ne se référait plus à la Bible, parce qu'on ne recherchait plus à connaître la volonté de Dieu, on ne recherchait plus à connaître la révélation de Dieu. C'est triste. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils ont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. C'est étrange. Parce que la parole de Dieu, on a été régénérés par la parole permanente de Dieu. C'est une parole vivante. Puis maintenant, si on a été régénéré, si on est né de nouveau par la parole de Dieu, ben, on se souvient. À ce moment-là, on ne pouvait pas arrêter de la lire parce que c'était tellement bon, parce que non seulement elle nous avait régénérés, mais elle nous transformait aussi. Mais dans le temps qu'on avait mis la Bible de côté, puis quand on met la Bible de côté, le Seigneur a dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est vraiment de rejeter la révélation de Dieu si on ne lit pas la Bible. Mais on a le privilège, on est capable, on a toutes des Bibles, on est tous capables de lire. Je ne pense pas qu'il y ait personne, c'est rare de voir quelqu'un qui ne sait pas lire, puis même si c'est pas lire, il peut l'entendre parce que la parole de Dieu, elle est enregistrée aussi, on peut l'écouter. Puis la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mais il y en a qui disent que ça a été redécouvert, l'enseignement des dispensations, les différentes dispensations. Normalement, généralement, on en voit sept dans la parole de Dieu. Puis, il y en a qui disent que c'est trop nouveau quand c'était redécouvert dans le réveil, dans les années 1800. Il y en a qui nous disent que c'est trop nouveau pour être vrai. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça avait été perdu, mais les croyants du début connaissaient ces choses-là. Puis, T.S. Wilson, il cite Augustin. Augustin qui a vécu dans les années 354 à 430, donc qui serait sûrement un des églises primitives. Lui-même avait dit le système des sept. Non, ça c'est T.S. Wilson qui dit ça, mais il va citer Augustin. Le système des sept dispensations dans la Bible Scofield est attaqué par certains et il a été dit qu'une telle méthode d'interpréter les Écritures était inconnue du christianisme historique. C'est-à-dire, le christianisme historique du début, là, il s'était ignoré. Ils ont oublié. Puis lui, il cite Augustin, il dit Augustin, sûrement, qui a vécu des années 354 à 430, sûrement c'était un représentant du christianisme historique. Puis lui a dit, distinguer les dispensations et les Écritures s'accordent. Puis c'est vrai, si on rejette l'enseignement des dispensations, ben la Bible, c'est un fouillis. Parce que Dieu a agi différemment dans différentes alliances. Puis si on distingue ces dispensations-là, là, la Bible s'accorde. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse, à Noé? Toutes ces choses-là que Dieu a dit, ben, ça s'harmonise quand on distingue les dispensations. Donc, quand on parle des temps accomplis, le mot veut dire ici, selon Vine, ça parle d'une plénitude, lorsque la chose va être remplie, quand la chose va venir à sa plénitude. Donc, c'est la fin d'une période appointée. C'est ça que ça veut dire, lorsque les temps seraient accomplis. C'est quand ça arriverait à maturité. Les dispensations sont la façon d'expliquer les différentes façons que Dieu a agi avec l'homme. Parce que Dieu a agi, c'est comme si Dieu a mis l'homme à l'épreuve pour nous faire comprendre des choses. Hein, comme la loi, on dit, il y a des gens qui pensent qu'on est encore sous la loi aujourd'hui, mais on n'est plus sous la loi. La loi, c'était quelque chose que Dieu mettait l'homme à l'épreuve. Dans les différentes dispensations, on voit que Dieu a toujours mis l'homme à l'épreuve. Puis ce qui est commun, c'est que l'homme a toujours manqué dans ses épreuves. Et c'est pour ça que Dieu, lui, il arrive avec le salut, un salut qu'on n'a pas besoin de gagner, qu'on n'a pas besoin, qu'on peut pas, on n'a pas besoin de garder. C'est lui qui le garde pour nous. C'est lui qui l'a accompli, c'est lui qui le garde pour nous. Donc, c'est différentes façons que Dieu agit avec l'homme. Mais les dispensations ne sont pas nécessairement des périodes de temps. Parce que des fois, les dispensations se chevauchent. C'est comme le gouvernement humain, par exemple. Quand tu as dit à Noé, quand tu es sorti là, si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ça, c'est l'établissement de l'autorité civile dans le monde. Dieu, c'est Dieu qui a les gouvernements. C'est pour ça qu'on prie pour les gouvernements. Parce que c'est une autorité que Dieu a établie sur le monde. Puis, on doit, Paul nous dit dans Romains, d'obéir aux autorités, d'être soumis aux autorités. Parce que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Hein? Si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc, Dieu a donné l'autorité à l'homme, le gouvernement humain, pour. Puis, aujourd'hui, c'est encore bon, ça. C'est encore aujourd'hui, le gouvernement, aujourd'hui, même César, qui n'était pas un bon gouvernement, mais Paul disait de prier pour les autorités, puis se soumettre aux autorités, qui lui était sous l'autorité de César, même si c'était des tyrans. Il reste qu'un jour, ils vont rendre compte à Dieu. Ils sont dans une position que Dieu leur a donnée. Donc, ça, c'est des révélations. Ce n'est pas des périodes de temps nécessairement, mais c'est des façons que Dieu a mis comme une alliance qu'il a faite avec des hommes pour les mettre à l'épreuve, pour démontrer quoi? Mais démontrer que l'homme faillit toujours, mais en se tournant vers Dieu, dans la grâce de Dieu, il nous donne toutes choses. Donc, c'est une administration, c'est des ententes que Dieu a faites avec l'homme, une administration pour. Ça fait partie de sa révélation pour nous faire connaître Dieu. Donc, c'est une révélation progressive de ce que Dieu est. Mais quand on pense ici, lorsque les temps seraient accomplis, c'est quoi? Ben, c'est le millénium. C'est le règne messianique. Quand le Seigneur Jésus va venir sur la terre, il va avoir sa place. Quand il va se manifester, puis il va installer son règne, il va avoir la place la plus haute. C'est lui qui est au-dessus de tout gouvernement. Il est au-dessus, non seulement ici, mais dans le ciel, il y a une place, comme on a vu, d'autorité que Dieu lui a donnée. Ça, c'est le millénium, c'est le royaume messianique. C'est lui qui va être à la tête pendant le millénium, pendant les 1000 ans. Et Dieu va manifester son Christ et sa gloire. Seigneur Jésus, il ne sera pas comme il y en a qui appellent le petit Jésus, là, qui le mettent sur une croix. Là. Non, il n'est pas sur la croix, Seigneur Jésus. Il est sorti du tombeau, puis c'est pas le petit Jésus, mais c'est Dieu Tout-Puissant. Manifesté, Dieu va le manifester dans sa gloire. Puis, comme on a dit, avant le péché, c'était l'harmonie. Mais le péché a amené la rébellion puis le désordre qu'on connaît aujourd'hui. Mais le péché qui a mis le désordre, avec tous les brisements, les ruptures, les séparations, toutes les choses qu'on souffre aujourd'hui, c'est tout à cause du péché. Mais Christ, lui, vient restaurer toutes choses. Mais c'est certain que pour restaurer, on sait que dans le millénium, celui qui va pécher, il va être jugé tout de suite. Le Seigneur va régner avec une verge de fer. Il ne tolérera pas le péché, Seigneur, dans son royaume. Il va juger avec une verge de fer. Donc, lui, il restaure tout. Il répare les dommages par le sang de sa croix. Le grand dommage qui avait été fait, l'insulte qui avait été faite au Dieu créateur, lui, il répare ça par le sang de sa croix pour réconcilier toutes choses. Donc, maintenant, il restaure tout, puis il répare les dommages par le sang de sa croix, puis toutes choses vont être réunies en Christ. Le ciel, la terre et la mer, comme on a vu dans Colossiens 1:20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans Philippiens 2:9-11, comme on a vu, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand on parle du Seigneur, il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas ça, mais un jour, tu vas y croire. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, tu ne crois pas d'un train? Installe-toi à côté d'une traque de chemin de fer, puis un jour, tu vas y croire, parce qu'il ne va pas s'un train. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Tu n'y crois pas, mais un jour, tu vas y croire. Parce que quand tu vas le voir, tu vas fléchir le genou, tu vas confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et bien, le fais tout de suite, parce que tu le fais pour ton salut. Mais si tu attends, tu vas le faire pour ta perdition éternelle. C'est ça. Donc, dans les prophètes, il est beaucoup question du royaume, hein? Parce que l'Église n'était pas révélée dans l'Ancien Testament. On sait qu'elle est là en vue, mais elle n'était pas révélée. Mais lui, dans les prophètes, il est beaucoup question du royaume. Ça, c'est le royaume. Quand on parle du royaume, on parle du règne millénaire de Christ qui va installer son règne. Puis, c'est là où il va avoir la première place. Ésaïe 4, 2, il dit, en ce temps-là, dans le temps parce qu'Ésaïe parle beaucoup du millénium, le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, en ce temps-là, on parle lorsque les temps seraient accomplis. Ésaïe lui dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel. C'est qui le germe de l'Éternel? C'est le Seigneur Jésus. Aura de la magnificence et de la gloire. Le Seigneur Jésus, ce ne sera pas un nom qu'on blasphème. Le Seigneur Jésus, ça va être l'autorité suprême. Tout genou va fléchir, tout le respect qu'il va avoir pour la présence du Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 11, 10, il dit, en ce jour, encore là, en ce jour, lorsque les temps seront accomplis, en ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Dans son royaume, là, toutes les nations ils vont donner gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'on sait que ceux qui, y en a qui ne rentreront pas dans son royaume. Ceux qui vont aller dans l'étang de feu, ils vont être jetés dans l'étang de feu. Mais le Seigneur Jésus, il va avoir une place, une grande place. Il va avoir la restauration d'Israël. Puis Israël qui rejette son Messie maintenant va l'avoir reçu. Un tiers d'Israël qui va avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont l'honorer. Ils me verront celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils vont s'être repentis. Ils vont avoir connu la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont avoir connu la place que Dieu a donnée au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont respecter cette place-là. Ils vont honorer le Seigneur Jésus. En ce jour-là, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. À travers eux, la restauration des nations. Le Seigneur Jésus va utiliser les Juifs pour restaurer les nations aussi. On voit ça ça va être un événement qui va être très grand quand finalement son peuple va reconnaître le Seigneur Jésus puis lui donner la place, reconnaître la place, pas lui donner parce que c'est le Père qui lui a donné, mais ils vont reconnaître la place que le Père a donnée au Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 11, 12, il dit, or, si leur chute, en parlant du peuple juif, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, il y a un jour où la nation d'Israël, ceux qui vont rester, parce qu'il va y en avoir deux tiers qui vont périr dans la tribulation, mais le tiers qui vont rester, ils vont se convertir tous. Tous. Ce n'est pas individuellement. En ensemble, tous ceux des Juifs qui auront persévéré jusqu'à la fin vont tous être sauvés. Mais il dit dans le verset 15, dans Romains 11, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Et comment Dieu fait travailler toutes choses à sa volonté, à son décret, à son plan, en réconciliant le peuple juif avec le Seigneur Jésus, son Messie, en reconnaissant la place que Dieu lui donne, ben, les nations vont être réconciliés aussi à travers le peuple de Juifs, qui vont voir comment ils ont été réconciliés, qu'eux aussi peuvent être réconciliés avec le Messie. Donc, c'est vraiment, on voit que dans les prophètes, dans Ésaïe 49, 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Souvent, quand il parle du serviteur de l'Éternel dans Ésaïe, on voit que des fois, c'est le peuple d'Israël, mais des fois, on voit plus loin que le peuple d'Israël, on voit le Seigneur Jésus, il est comme dans son identification avec Israël. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous que Dieu n'avait pas seulement en vue le peuple juif. Il a toujours eu en vue les nations. Il a toujours eu en vue toute sa création. Puis c'est comme ça qu'il va le faire, il va utiliser le peuple juif. Dans les prophètes, on voit qu'il va juger Israël. Quand il parle des prophètes, on regarde Ésaïe, on regarde Jérémie, on regarde Ézéchiel. Il y a toujours un jugement sur Israël. Le jugement commence par la maison de Dieu. Mais ensuite, on voit la restauration d'Israël. Mais de la même façon, on voit que les nations aussi vont avoir un jugement. Il y a un jugement qui vient sur les nations, mais il y a aussi une restauration. C'est un thème qu'on voit qui revient, qui surgit toujours dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans les prophètes. C'est qu'il y a un jugement qui est amené. Pourquoi? Pour ensuite avoir une réconciliation. C'est le Seigneur qui travaille cette réconciliation-là. C'est son décret. Il le fait comment? À travers son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va ramener les choses. C'est lui qui va rétablir toutes choses. Donc, c'est la connaissance de l'Éternel qui va accomplir tout ça. Puis comment est-ce qu'on connaît l'Éternel? On le connaît à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'impression de sa personne. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Mais quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit à Philippe, Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur Jésus dit, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous que tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il est l'expression même du Père. Quand le Seigneur Jésus parlait, c'est le Père qui parlait. Quand le Seigneur Jésus agissait, c'est le Père qui agissait. Il est venu nous révéler le Père qu'on ne pouvait pas voir. Lui est venu. Puis quand il était ici sur la terre, on pouvait voir le Père agir. Donc, c'est la connaissance de l'Éternel qui va accomplir tout cela. Puis dans Habacuc, chapitre 2, verset 14, il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Le fond de la mer, là, il n'y a pas de plus quand les eaux qui couvrent le fond de la mer, là, c'est vraiment le contact parfait. Il n'y a rien entre l'eau puis le fond de la mer. La pression, puis c'est comme ça que la connaissance de la gloire de l'Éternel, il va remplir la terre, va être remplie comme les eaux de la mer couvrent le fond de la mer. Donc, dans le millénium, ça va être l'harmonie, ça va être la paix entre tous. Puis, il va y avoir la paix entre les hommes. Les Nations unies, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour la paix. Puis, ils n'ont pas accompli grand-chose encore. Maintenant, c'est sûr, ils ont crucifié le prince de paix. Si on crucifie le prince de paix, comment est-ce qu'on peut avoir la paix si on a crucifié le prince de paix? Mais dans le millénium, par le prince de la paix, il va y avoir la paix entre les hommes. C'est vrai que ça, c'est merveilleux. Et si on va dans Michée, au chapitre 4, Michée, chapitre 4. Donc, ça, c'est tout par le Seigneur que ça va se faire. Dans Michée, au chapitre 4, Osée, Joël, Amos, puis on va arriver à Jonas, Michée. Donc, Michée, au chapitre 4, les versets 1 à 5. Il dit, il arrivera dans la suite des temps. Il parle toujours lorsque les temps seront accomplis en ce jour-là. Lorsque dans la suite des temps, que la montagne, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances, des serpents. Donc, les instruments de guerre, ils vont devenir des instruments pour cultiver la terre. Il dit, et nation ne tirera plus l'épée contre une autre. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui, là. Là, c'est la guerre. Puis là, il essaie de régler la guerre, mais ça ne marche pas partout. Mais le Seigneur, lui, va la régler. Il dit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Ça va être la paix entre les hommes. Dans Ésaïe 11:6, on va voir aussi que ça va être la paix entre les animaux. Ésaïe 11:6, c'est des passages qui sont fameux, qu'on connaît très bien là, par rapport au millénium, parce que des fois, il y en a qui disaient qu'on était dans le millénium, mais va mettre ta main dans la gueule du lion, tu vas voir si on est dans le millénium. Parce que dans le millénium, Il va avoir la paix aussi, la paix entre les nations, entre les peuples, entre les personnes. Même des fois, il y a des gens comme au camp, quand on avait des jeunes qui ne connaissaient pas la Bible, quand ils voyaient les guerres dans l'Ancien Testament, et, hey, comment ça se fait? T'sais, on ne parle pas de guerre. J'ai dit, on n'en parle pas de guerre, on l'a fait, par exemple. T'es chicanché avec ton petit frère? Ben oui, c'est la guerre. C'est dans le cœur de l'homme, dans les relations les plus minimes, on ne s'entend pas. Et là, il y aurait peut-être l'harmonie, la paix entre les nations, mais aussi entre les gens, mais entre les animaux aussi. Dans le chapitre 11 de Matthieu, pas Matthieu, d'Ésaïe, et le verset 6 à 9, il dit: Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Donc, on voit ici les hommes, ça va être l'harmonie entre les hommes, ça va être l'harmonie entre les animaux. Mais ça va être aussi l'harmonie dans la création de Dieu. C'est ça, afin de réunir toutes choses en lui. Si on va dans Romains au chapitre 9, Romains au chapitre 9, on voit que ici, ça va être aussi la création qui va être en harmonie ici. Au chapitre 8, excusez, Romains 8, les versets 19 à 22. 8, 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, la nature aussi, la création de Dieu, elle va être en parfaite harmonie. Puis, comme je vous ai dit, c'est entre la terre et le ciel. Puis, le tout va être en parfaite harmonie avec Dieu. Ça, c'est ce que les hommes ils pensent que ça serait la chose la plus terrible d'être en harmonie avec Dieu. Mais c'est la meilleure des choses. Puis pour nous qui va avoir part à ça, on va s'apercevoir que c'était la meilleure chose, c'est d'être rendu harmonieux avec le Dieu qui nous aime, qui nous a créés. Mais dans le millénium, c'est bien beau tout ça, mais ce ne sera pas encore la perfection. C'est encore une dispensation. C'est encore une mise à l'épreuve. C'est que Dieu, l'homme ne pourra pas dire dans le millénium, ben c'est Satan qui m'a amené à faire ça, parce que Satan va être lié durant le millénium, pendant 1000 ans, il va être lié. Il va être délié à la fin, puis on voit à la fin, c'est quoi? Encore une rébellion. Il dit qu'il va rassembler ceux qui sont aux quatre coins de la terre. S'ils sont aux quatre coins de la terre, c'est quoi? Ils ont essayé de se tenir le plus loin possible du Seigneur Jésus. Il va les ramener, puis il va venir pour faire une rébellion finale contre le Seigneur Jésus, mais un feu du ciel va venir, va les détruire. Après ça, on va rentrer dans l'état éternel. Dans l'état éternel, et ça va être harmonieux pour toujours. Moi, ça m'encourage, ça, parce qu'on voit ce combat-là dans notre chair. Hein? On est en combat, on est en rébellion. On essaie de meurtrir les œuvres de la chair, puis de vivre par l'esprit pour qu'on soit en harmonie. Mais quand aussitôt on revient à notre chair, qu'est-ce qu'on est? On est en rébellion. Mais quand on se laisse diriger par l'esprit, qu'on se nourrit de l'esprit, qu'on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, bien, on est en harmonie avec Dieu. Mais dans ce jour-là, moi, ça m'encourage tellement, il n'y aura plus ce combat-là avec moi, dans ma chair. Ma chair va avoir été transformée. Elle va être parfaitement en harmonie, puis pour toute l'éternité, parce qu'il n'y aura plus jamais de rébellion à partir de ce moment-là. Puis on va aller peut-être en terminant dans 1 Corinthiens 15 pour montrer ça. C'est avec l'état éternel. Puis, si le millénium est encore, c'est pas encore la perfection, ben là, après le millénium, là, ça va être la perfection, puis la perfection pour l'éternité. 1 Corinthiens 15, les versets 24, dit Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, le Seigneur Jésus, il a tout soumis à lui, puis là, lui-même se soumet à Dieu. Il dit Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, Seigneur Jésus ne va pas se rebeller contre son Père, comme Satan s'est rebellé. Alors le Fils lui-même, avec toute sa compagnie, avec tout ce qui l'a réconcilié, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ça, c'est l'état éternel, puis il n'y aura plus jamais de rébellion. Merci Seigneur, c'est ça sa volonté. C'est ça son décret qu'il a formé en lui-même, selon son bon plaisir, selon sa bienveillance. Il l'a formé en lui-même lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Béni soit son nom, c'est vraiment merveilleux. Puis maintenant, je vous redonne votre micro, c'est que vous pouvez prendre votre micro. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire maintenant. On a encore un peu de temps pour le faire. Excusez, j'ai pris un petit peu plus longtemps, là. Mais... c'est...
Si personne ne dit rien,
Ben...
comment est-ce qu'on peut résumer?
Attends un petit peu, Richard. Raymond, il veut dire quelque chose ici?
Oui, juste dire que si on met en résumé le mystère de sa volonté, c'est une personne. Et voilà.
Et ça, ouais. Raymond, il dit, si vous avez compris, Raymond, il dit qu'en résumé, le mystère de sa volonté, c'est une personne. Ouais. Richard, je pense que tu avais quelque chose que tu voulais dire.
Ben, juste un commentaire. À force d'étudier le système dispensationalisme, on s'aperçoit que c'est le seul système qui permet d'interpréter la Bible littéralement.
Exactement. C'est vrai. Ouais.
Puis tout
Vous avez
prend
bien compris.
son sens, tout concorde de façon logique. Mais je
Tout
trouve ça.
s'harmonise.
Pardon?
Tout s'harmonise, comme disait
Oui,
Luc.
toute harmonie. Je trouve ça dommage qu'on n'enseigne plus les dispensations. Là, je trouve ça très dommage. Moi, j'ai commencé avec M. Bottré au début de ma vie chrétienne, puis ça m'a aidé
Tout
durant
le long.
les 50 ans de ma vie chrétienne.
Ben oui, c'est vrai, exactement. Vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit, Richard? Ah oui, moi aussi, ça m'a frappé au début. C'est la première fois que je suis. Richard a été sauvé à Saint-Anne-des-Monts aussi, en même temps que nous autres.
On
Puis,
était là.
je me souviens, on était venu à une conférence de M. Bottré avec la carte. Là, puis moi, je n'en revenais pas là, de voir toutes ces choses-là. C'était tout nouveau pour moi. Mais on n'a jamais oublié ces choses-là. Il y a
C'est
des
quand
gens, il y a
même
plus.
grandiose de tout ressentir avec tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a en Jésus-Christ, là,
C'est
c'est
extraordinaire.
grandiose.
C'est
Hein?
grandiose. Oui, c'est vrai.
C'est encourageant.
Ouais. Quand on n'était pas en lui, on n'avait rien.
Non.
Ouais. Vous avez tout pleinement en lui. Ouais. Mais qui voudrait chercher une expérience encore plus grande que ça,
Il
là? C'est en vain.
n'y
Gérald,
Oui,
je
ça
suis
me
toujours
surprenait,
étonné de
oui.
voir partout où tu es, parce que tu changes d'endroit souvent.
Ouais.
Comment tu réussis à t'adapter et à faire des présentations aussi éloquentes et avec beaucoup d'informations? En tout cas, c'est vraiment une grande richesse que Dieu t'a accordée et dans laquelle ça, nous recevons la bénédiction.
Le Seigneur dit, qu'as-tu que tu l'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Mais sinon, c'est vrai, c'est vraiment un privilège de pouvoir être ensemble puis de regarder la parole.
Une question.
Oui, Raymond, une question?
Quelle est la différence entre la volonté de Dieu et le mystère de la volonté de Dieu?
Oui, Raymond, il me demande, quelle est le... Vous avez compris, c'est la question? Oui, c'est
Oui.
ça. Oui. Ben, la volonté de Dieu, c'est comme il y a des fois les témoins de Jéhovah, ils disent qu'on est sauvé en faisant la volonté de Dieu. Mais je dis oui, en autant qu'on comprend bien c'est quoi la volonté de Dieu. Puis, comme le Seigneur Jésus a dit, la volonté de mon Père, c'est que tous ceux qui viennent à moi, que je les ressuscite au dernier jour. C'est ça la volonté de Dieu, c'est notre salut. Il nous veut réconcilier avec lui. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui veut. Puis il a mis tout, on voit tout ce qu'il a mis en branle là, en envoyant son fils mourir sur la croix pour nos péchés. Pourquoi? Pour nous réunir à lui. Puis c'est pas pour nous réunir à lui, ben, faut il faut qu'il nous sauve. On ne veut pas être réunis à lui dans notre péché. Mais c'est ça, ça fait que c'est sa volonté, le mystère de sa volonté. Il nous le révèle, c'est son cœur qui s'ouvre pour montrer, regardez ce que j'ai fait pour vous autres, regardez à quel point je suis allé pour vous réconcilier puis vous emmener dans ma présence pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'il faut reconnaître? C'est la place là-dedans qu'il a donnée au Seigneur Jésus. C'est ça qui est important de reconnaître. C'est pour ça que c'est triste aujourd'hui qu'on voit des églises qui. L'emphase n'est plus sur le Seigneur Jésus. L'emphase est sur le divertissement, l'emphase est sur d'autres choses. Mais vraiment, ayant les regards sur Jésus, le chef ou celui qui initie la foi, et le consommateur, celui qui va l'amener à terme. On a pas, quand on regarde à Jésus, au Seigneur Jésus, on n'a pas besoin d'autre chose. Il y a des gens, il y a un frère qui il regarde beaucoup les événements qui arrivent, puis toutes les choses, les prophéties qui s'accomplissent, puis lui, il est découragé. Ben, je dis, moi, je ne suis pas découragé, je ne regarde pas ça, je regarde au Seigneur Jésus. C'est lui, il va me conduire là-dedans. Il sait comment on doit se conduire là-dedans. Comment est-ce que. Puis si on regarde à lui, on est comme un enfant sevré auprès de sa mère. Donc, le temps est arrivé. On va peut-être terminer par un mot de prière. S'il y en a qui veulent continuer de jaser après, on pourra, mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Puis, on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Comment, Seigneur, tu nous as ouvert ton cœur. Oui, Seigneur, tu aurais pu nous sauver puis nous laisser là dans l'ignorance jusqu'à temps que tu viennes nous chercher, mais tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté. Seigneur, s'il fait ton plaisir, combien nous, Seigneur, ça fait notre plaisir de savoir que c'était le bienveillant dessein que tu avais décrété en toi-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Seigneur, merci pour un si grand salut. Merci qu'un jour, finalement, on va être tous réconciliés. Ceux qui t'ont reçu, qui ont reçu ton salut, on va être tous réconciliés avec toi, comme les animaux, comme ta création. Et nous, en tant qu'hommes, on va reconnaître vraiment la place donnée au Seigneur Jésus-Christ, puis lui, après avoir soumis toutes choses, il va se soumettre lui-même à celui qui lui a soumis toutes choses. Merci, notre Dieu, que c'est grand, que c'est merveilleux, que ça nous amène, Seigneur, à t'adorer. Puis oui, on veut te donner la louange, l'honneur et la gloire au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.